Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, analogie ou amalgame, que gagne-t-on à regarder l'Europe d'aujourd'hui dans le miroir des années 30? Rendez-vous à partir de 12h55 avec le philosophe Michael Fossel, auteur de Récidive, aux presses universitaires de France. Mais d'abord, touristes par-ci, touristes par-là, ils étaient plus de 8 millions de visiteurs l'an passé à rencontrer la demeure du Roi Soleil, en file d'attente ou en action, photographiant le château et surtout se photographiant, fidèle à son sujet, Martine Parr rend visible l'invisible à l'invitation du château de Versailles dans le cadre d'une exposition collective à voir jusqu'au 20 octobre. Membre de l'agence Magnum, le photographe britannique est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Avant de retrouver Martine Parr au château de Versailles, on part tout de suite au palais des festivals où nous attend Antoine Guillot pour son journal de Cannes avec aujourd'hui le réalisateur Alain Cavalier.
Dans la frénésie des projections cannoises, Olivia, il est bon parfois de faire un pas de côté, d'autant qu'alors c'est la grâce même qui, sans crier garde, vous tombe dessus. C'est ce qui est arrivé hier soir aux spectateurs du nouveau film d'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir. Tiré de Faulkner et déjà cité chez Cavalier, c'était dans La Chamade par la voix de Catherine Deneuve, la phrase synthétise parfaitement le sentiment qu'on ressent en sortant du film, un film pourtant hanté par la mort et la disparition. Alain Cavalier projetait en effet d'adapter Tout s'est bien passé, le roman où Emmanuel Bernheim racontait comment son père l'avait chargé d'organiser son suicide assisté. Et puis l'écrivaine a été frappée par le cancer qui a fini par l'emporter. On sort de ce film en éprouvant un vrai sentiment de gratitude, un sentiment d'autant plus élevé qu'il nous aide à accepter la disparition de nos proches, de nous-mêmes et un jour d'Alain Cavalier lui-même qui, en une scène saisissante, s'exerce au moment où il poussera son dernier souffle. Car loin d'être morbide, ce film sur un film qui ne s'est pas fait, est tout au contraire une constante célébration de la vie. Alain Cavalier.
Dans votre journée, comme vous êtes cinéaste, vous êtes attentif à tout, et quand vous trouvez quelque chose de vraiment bien, vous le filmez, vous le célébrez, vous en gardez la trace, vous le tenez. Hein. Donc vous lui donnez un tout petit peu d'éternité, un tout petit peu de survie. Et c'est ça que je trouve épatant de filmer, même des choses un peu difficile, comme une personne très très chère qui est en train de sortir de la vie. Il y a des moments tellement étonnants que si on les garde et qu'on les transmet, ça peut aider les gens même qui ne sont pas au bord de la mort, simplement à comprendre ou à vivre certaines menaces souterraines qui font partie de la vie de chacun. Quoi. Hein ? C'est une célébration de filmer. Donc la vie sous toutes ses formes, est un peu devrait être un peu à son maximum. Quoi.
Il vous arrivait d'être un peu jaloux de l'écriture, de l'écrivain, d'Emmanuel Bernheim, mais d'autres aussi. Il y a des moments dans votre film où vous dites « ce que je ne peux pas filmer, je l'écris ». Mais vous filmez ce que vous avez écrit.
Je vais vous résumer notre atroce souffrance. Mettons un jeune homme très doué cinématographiquement, qui passe un repas, un dîner formidable avec une personne du sexe féminin, par exemple, ou le masculin, qui, après une nuit délicieuse, qui rentre chez lui, qui plane, hein, et puis s'il est écrivain, il peut l'écrire tout de suite. Il l'écrit tout de suite. S'il est peintre, il peut prendre quelques petits croquis pour bien s'en souvenir. S'il est cinéaste, il ne peut pas filmer ça au moment où ça se passe, évidemment. Donc, nous qui sommes fascinés par la vie, les trois quarts de la vie nous sont interdits. Et c'est ça qui fait notre force, parce qu'on cherche toujours à forcer un peu les choses. Par exemple, le pouvoir, les décisions qui se passent. Dès qu'une caméra est là, on vous ferme la porte. Évidemment qu'on vous ferme la porte. On ne va pas vous raconter exactement ce qui se passe. Et dans 1000 domaines, c'est exactement la même chose. Alors, il faut que vous vous contentiez de ce que vous pouvez filmer dans votre propre vie, de ce que les gens que vous filmez acceptent. Hein, de vous, de... Et à ce moment-là, c'est étroit, mais c'est très intéressant.
Merci Antoine Guillot. Le journal de Cannes est à retrouver sur franceculture.fr. Quant à vous, je vous retrouve lundi prochain à Cannes pour 3 émissions spéciales avec notamment Céline Sciamma, Adèle Haenel, Antonio Banderas, les frères Dardenne et bien d'autres invités autour de notre grande table.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Le tourisme, la société des loisirs, nos cultures consuméristes sont au cœur de son travail depuis les années 80, des bateaux de croisière aux plages artificielles japonaises, des supermarchés irlandais aux champs de course de Dubaï. Bonjour Martine Parr.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Xavier Combes.
Bonjour.
Martine Parr, vous investissez aujourd'hui le château de Versailles, photo réalisée l'an passé, à voir en ce moment. En photographiant les visiteurs, vous répondez simplement et parfaitement à la commande « rendre visible l'invisible ». C'est un jeu de miroir inversé que vous avez choisi de réaliser.
I guess you can't think of Versailles without thinking of tourists.
Quand on pense à Versailles, on pense évidemment aux touristes.
C'est un miracle
parce que c'est la première fois que je viens ici. En fait, c'est la deuxième. Je suis venu pour la première fois, la dernière fois. Et lors de ma première prise de photo, j'ai vu 50 autocars dans le parking. Je me suis dit, c'est fantastique pour moi. Donc j'arrive, je commence à prendre des photos et je suis subjugué par le nombre de visiteurs à Versailles. C'est absolument incroyable. Plus il y a de visiteurs, plus il y a foule, plus je suis ravi.
Jusque dans la Galerie des Glaces, vous êtes allé photographier. C'est pensé en plus, cette Galerie des Glaces, elle a été pensée comme un lieu où l'on se mire, où l'on se regarde. Là, c'est l'arroseur arrosé, c'est vous qui regardez, les regardeurs qui se regardent.
Oui, mais c'est justement ça le tourisme. Les gens utilisent leur smartphone pour prendre des photos. En fait, ils se prennent eux-mêmes en photo. C'est une obsession. Et aujourd'hui, on peut voir les gens en train d'utiliser les smartphones à Versailles. Donc c'est assez intéressant, c'est un paradoxe, c'est une espèce d'énigme qui me fascine.
Et du coup, vous passez complètement incognito au milieu de toutes ces personnes qui se photographient. Qu'est-ce que les touristes du château de Versailles photographient le plus ?
En fait, eux-mêmes, particulièrement dans la Galerie des Glaces, voilà un lieu privilégié pour les touristes. Les gens adorent les icônes du tourisme. Donc, prenons des touristes chinois. Eh bien, les touristes chinois sont de plus en plus nombreux et s'il y a un endroit où ils veulent être photographiés, c'est la Galerie des Glaces, évidemment. Et à mes yeux, ce qu'il y a de formidable dans le tourisme, c'est qu'il y a cette mythologie, que l'idée qu'on se fait d'un lieu. Mais quand on arrive sur place, c'est différent. Et c'est ce que j'essaye d'illustrer dans mes photos.
Longue file d'attente dans la cour d'honneur du château de Versailles, visage de femme noyée dans un plan du château à essayer de se retrouver parce que c'est très très grand le château de Versailles, des photos d'appareils photo aussi dans le salon de la guerre ou dans le salon de Vénus. Ce que vous avez photographié, Martine Parr, ça parle de nous, mais ça parle aussi de vous. Vous, le photographe professionnel, quel touriste étiez-vous là au château de Versailles à ce moment-là ?
Moi, je suis un touriste comme un autre, vous savez, j'arrive à un moment où les gens font la queue. Mais moi, j'ai un pass. Il ne faut pas que j'attende très longtemps pour rentrer dans le château. J'ai un appareil photo assez important par sa taille. La plupart des gens ont des smartphones. Sinon, moi, je vais dans tous les lieux touristiques. Et quand il n'y a personne, ça ne m'intéresse que très peu. En réalité, il y aura très peu de visiteurs qui vont venir voir cette exposition. Mais moi, je vais là où il y a le plus possible de monde.
Et vous avez redécouvert ce château ? Parce que c'est aussi ça la particularité. On aurait tendance à croire que rien ne ressemble plus aujourd'hui à un touriste qu'un touriste. Est-ce que vous parvenez à regarder de manière neuve, à porter un regard neuf à chaque fois sur ces situations ?
Mais le château est d'abord submergé par 8 millions de visiteurs par an. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu tant de temps pour arriver au château de Versailles ? J'ai 66 ans, je travaille dans le domaine du tourisme depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que je ne suis pas venu à Versailles il y a 20 ans ou il y a 10 ans ? C'est ça qui m'étonne le plus. C'est un endroit pourtant très connu des touristes. Moi, j'aime bien aller où il y a des foules de touristes. Le grand mystère, c'est pourquoi je ne suis pas venu plus tôt au château de Versailles.
Quand vous prenez ces photos, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, Martine Parr ? Est-ce que c'est le sujet, l'homme, les femmes, les enfants qui sont au cœur de la photo ou est-ce que c'est sa composition ?
I think no. The thing that's most important is to get the essence of how crowded it is.
Le plus important, c'est la constitution des foules. C'est comme une horde de gens, et en réalité, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Donc moi, je fais partie de la horde. Parfois, je m'arrête, je prends des photos, mais il y a ce sentiment de claustrophobie qui règne au sein de cette foule. Tout cela, c'est contraire à ce dont on fait la publicité. Ici, on dit aux gens que la visite va être agréable, mais c'est assez peu confortable de visiter un tel lieu si prestigieux au sein d'une telle foule.
Mais vous qui parlez souvent, Martine Parr, de réorganiser le chaos avec vos photos, ici, tout est très ordonné. Les gens attendent en file d'attente. Dans les salles d'exposition, ils sont tous alignés derrière le guide et suivent ses indications. Vous avez été surpris par cela aussi ?
You have to have a queuing system, otherwise
il faut un système de file d'attente, sinon tout s'effondre. Donc il faut que tout soit bien organisé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi les gens ne réservent pas leur entrée. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore tant de gens qui attendent aussi longtemps. Ils pourraient s'organiser mieux. C'est complètement dingue. Mais bon, ce qui est dingue, c'est très attirant, évidemment. Il y a d'autres endroits, tels que le Louvre, où c'est un peu pareil. La salle de la Joconde, c'est totalement insensé. Vous y êtes allé, vous ?
Presque comme tous les Français, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas, Martine Parr, aussi un plaisir dans l'attente, une forme de communion ? Vous êtes patient, vous ?
S'il faut, moi, je fais la queue, oui. Mais si on me donne un coup de fil, ou si j'achète un coup de fil, ben, j'évite la file d'attente. Oui, je fais la file d'attente lorsque c'est nécessaire. Et évidemment, je n'aime pas les risques. Les Britanniques sont les plus disciplinés de ce point de vue-là. C'est une des rares qualités des Britanniques. À mesure que notre pays s'effrite, un peu comme la France d'ailleurs, les deux pays sont en train de décliner. Qui va remplacer les Britanniques et les Français ? Eh bien, les Chinois, si nombreux qui prennent le pouvoir. Moi, je trouve ça très excitant.
Ça ne me dit pas si dans la vie vous êtes quelqu'un de patient. Vous êtes quelqu'un qui peut attendre des heures et des heures jusqu'à avoir la bonne photo, celle que vous espériez saisir.
Oui, je suis prêt à attendre des heures pour prendre la bonne photo, mais je ne fais pas la queue. J'attends, mais ce n'est pas facile de prendre ces photos. Ça semble facile avec la foule qui est là, le château qui est là, mais trouver la bonne composition, c'est difficile. Mais moi, je suis expert dans les mauvaises photos. Je prends plein de mauvaises photos, ça je sais faire, mais de temps en temps, il y en a une bonne qui sort.
My bad photos, because we'd be here too long.
Non, si vous me demandez de vous montrer mes mauvaises photos, on y passerait des semaines et des semaines. Elles sont immensément nombreuses.
Non, mais alors du coup, je vais vous demander comment vous faites pour savoir ce qui est au final une bonne photo dans cet océan de photos que vous allez prendre. Il y a toutes celles que vous allez jeter, visiblement elles sont majoritaires, à mettre au rebut. Quelle va être la photo que vous allez garder, la bonne photo ? Qu'est-ce qui fait une bonne photo pour vous, Martine Parr ?
You have a sense of when things are falling into place. There's often a contradiction.
Parfois, les choses s'alignent comme il faut. Donc, il y a l'expression d'un message. Lorsque la chose est bien composée, conçue, il y a de l'anarchie, de la folie. Et donc, c'est une situation anarchique, chaotique que j'essaie de dépeindre. Et on retrouve ça à Versailles et j'essaie de composer ça dans une photo. Donc, moi, je sais quand je tiens quelque chose. Mais si on attend d'avoir tout en place pour prendre une photo, bah, on n'appuie jamais sur le déclencheur. Il faut prendre des photos, même si elles sont mauvaises. Les gens croient que la photo, c'est un travail assez facile, plein de glamour et tout, mais en réalité, c'est un travail acharné et assez ingrat.
Il y a parmi les photos qui sont actuellement présentées au château de Versailles, Martine Parr, la photo d'un buste de femme que vous avez photographié dans la petite boutique du château. On peut l'acheter. Ce buste, il a un prix à 4 chiffres. Qu'est-ce qui vous a intéressé, fasciné dans cette photo-là ? Qu'est-ce que ça nous dit ?
I like gift shops, of course,
because, j'adore les boutiques de souvenirs parce que c'est là que l'on voit le véritable esprit d'un lieu. Et je ne pouvais pas croire au fait que ce buste en plâtre se vende à un tel prix, 4000 euros. Donc moi, j'ai pris des photos de cela, ça m'a tellement étonné. Et voilà, donc elle est ressortie comme ça parce que c'est en fait le résultat de mon étonnement.
Pour moi, c'est la pire invention du 21e siècle, enfin l'une des. Pas pour vous, visiblement, Martine Parr. La perche à selfie, comment qualifiez-vous cet objet ?
I'm a big fan of selfie.
Moi, j'adore les perches à selfie. Cette année, je fais un livre sur les selfies, d'ailleurs. Et je suis allé en Inde, parce que l'Inde, c'est le pays au monde où on prend le plus de selfies. Et je le sais, c'est un fait, parce que j'ai étudié les statistiques des morts par selfie. Il y a environ 30 personnes qui meurent chaque année en Inde lorsqu'ils prennent des selfies. Et donc, on peut partir du principe que c'est en Inde que se prennent le plus de selfies. Donc, moi, je suis allé en Inde et je vais sortir un livre que l'on pourra voir à Paris Photo cette année sur les selfies.
Vous vous souvenez de la première fois où cette perche a fait son apparition dans votre objectif ?
Je ne me
souviens pas de la première fois que j'ai vu une perche à selfie, mais c'est une chose dont on n'a pas connaissance, puis tout à coup, on se retrouve submergé. Je ne saurais pas donner de date, mais la perche à selfie, on ne peut pas lutter contre. Hein. Moi, j'adhère et je suis attiré par tous les gens qui sont des adeptes de la perche à selfie. Vous voulez que je vous en donne une après l'interview ?
J'aimerais bien faire un selfie avec vous, surtout, après l'interview, Martine Parr. Vous dites oui ?
Bien sûr, pourquoi pas, avec plaisir.
Pourquoi ce besoin, à travers le selfie, de justifier, d'après vous, notre présence au monde, de garder une trace de notre passage dans ces lieux ?
C'est en fait des pèlerinages, ces visites touristiques. Dans le passé, on faisait des pèlerinages spirituels, mais aujourd'hui, il faut prouver qu'on est allé à tel endroit. Donc, il faut la preuve photographique. Dans le passé, on faisait prendre une photo de soi-même. Moi, j'ai pris des milliers de photos de gens qui me voient en photo derrière eux. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut prendre ces photos soi-même. Autrement dit, on maîtrise les choses, on peut choisir le moment, le lieu exactement. On n'a pas besoin d'un passant pour demander de vous prendre en photo. C'est vous qui maîtrisez les choses avec le selfie. Donc, si vous venez à Versailles, eh bien, il faut, c'est une obligation, prendre le lieu en photo avec vous au premier plan. C'est le pèlerinage moderne.
Est-ce que ça veut dire que notre époque va bien ? Si les chevaliers de la salle des croisades que vous avez photographiés sortaient du tableau, est-ce qu'ils penseraient que notre monde est complètement fou ou qu'il se porte plutôt bien ?
On est devenu complètement insensé, on est devenu dingue. Et le tourisme, il faut le savoir, c'est le secteur d'activité le plus important au monde. Hier, quelqu'un m'a dit quelque chose d'intéressant. En raison des troubles que connaît Paris, les Japonais ne viennent plus à Paris. Mais les Chinois, eux, ils s'en foutent. Ils viennent, ils sont de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, il y a des touristes de tous les pays, mais surtout de Chine. Tous les samedis, il y a les gilets jaunes et les Chinois, eux, ça les indiffère. Donc il faut que vous, Français, vous soyez reconnaissants envers les Chinois, parce que sans les Chinois, l'économie française serait un peu plus en péril qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc Dieu bénisse les Chinois en France.
Small World, c'était le titre de l'une de vos premières grandes séries sur le tourisme de masse, Martine Parr, réalisée entre 1987 et 1994. Plus vous parcourez le monde pour le documenter, pour documenter l'époque, plus vous avez le sentiment que ce monde rétrécit, qu'il s'homogénéise.
Le monde se rétrécit, oui, parce que le voyage est devenu plus facile, plus abordable. Avant, les Chinois ne voyageaient pas, maintenant ils voyagent beaucoup, mais c'est un problème parce que les avions, la pollution, l'environnement, comme vous le savez, évidemment, nous sommes allés droit dans le mur du point de vue environnemental et le tourisme contribue à cela, mais bon, ça bénéficie à l'économie.
mais quand on regarde le dérèglement climatique, la pollution, et bien sûr, les classes moyennes sont de plus en plus importantes. C'est pourquoi moi, je m'intéresse aux loisirs du monde occidental. Et nous sommes coupables des problèmes que nous connaissons plus que la famine, les guerres, c'est nous, par nos voyages, par nos activités, qui nuisons à nous-mêmes, en nuisant d'abord à la planète. Mais tout ça, c'est tragique, mais moi, je traite ça avec humour.
Pour rien au monde, vous ne repasseriez, Martine Parr, au noir et blanc que vous avez abandonné au début des années 80, ou est-ce que, au fond de vous, vous vous dites qu'il y aurait un sujet, une série qui pourrait à nouveau s'y prêter?
Non, le noir et blanc, c'est fini pour moi. Le monde est en couleur. Je vois en couleur. Toute cette folie est en couleur. Le noir et blanc est trop réducteur. Il faut préserver l'anarchie, le chaos. Et par conséquent, il faut être fidèle à cela grâce à la couleur.
Martine Parr, est-ce que le Brexit est photogénique ?
No, Brexit is very unphotogenic. It's very difficult to photograph. But
très difficile de photographier le Brexit, mais j'ai une exposition au National Portrait Gallery à Londres. Et dans une salle, je dépeins la Grande-Bretagne de par les effets secondaires du Brexit. C'est un sujet difficile à photographier. À moins de photographier les manifestations, ça c'est assez facile, mais moi j'essaye de travailler le sujet de façon un peu subtile. Je ne sais pas si c'est réussi, mais j'essaye.
Alors comment avez-vous procédé et surtout qu'est-ce que vous avez compris, vous, Martine Parr, de l'identité anglo-saxonne, la vôtre, en réalisant cette série Only Human, présentée en ce moment à la National Portrait Gallery de Londres?
Eh bien, l'avènement du nationalisme britannique est une des causes du vote du Brexit. Donc, moi, j'ai photographié la manifestation de Saint-Georges, là où le vote pour le Brexit a été le plus important. Sinon, j'ai photographié des lieux comme Bristol, là où je vis, moi, les grandes villes britanniques ont voté Remain, donc contre le Brexit. Et ce sont les gens qui souffrent financièrement, qui ont voté pour le Brexit. Ils sont en colère, ils veulent se débarrasser de l'establishment. C'est pour ça qu'ils ont voté pour le Brexit, notamment dans les zones rurales.
C'est ça. Donc les gens que vous avez majoritairement photographiés toute votre vie, Martine Parr, vous diriez que c'était plutôt des partisans du Leave, du départ?
Difficult to know. I mean, you can't actually tell if someone's a Leaver or a Brexiteer.
C'est pas sur leur visage, hein.
Généralement,
les classes moyennes, les gens comme moi, sont des gens qui veulent rester en Europe, alors que les gens de la classe ouvrière, notamment où il y a des difficultés économiques, sont des gens en colère et ils expriment leur colère en votant pour le Brexit. Bon, ça c'est une analyse assez simpliste, j'en conviens, mais elle n'est pas pour autant dénuée de vérité.
Et on imagine qu'en réalisant cette série, vous avez fait votre propre examen de conscience, Martine Parr. Quel Européen êtes-vous aujourd'hui?
Moi, je suis pro-européen. Moi, j'ai voté contre le Brexit. Je suis consterné et désormais en colère face à ce vote de mes concitoyens. Mais ce qu'il y a de bien dans toutes ces séries de photos en Grande-Bretagne, c'est qu'elles ont une vertu thérapeutique. Je t'aime moi non plus. C'est ça ma relation par rapport à la Grande-Bretagne. Et ça s'exprime par les photos chez moi. Donc ça m'aide en quelque sorte à me motiver pour prendre des photos peut-être avec encore plus de pertinence qu'avant.
Dans deux semaines, vous allez voter?
Of course,
Et comment?
C'est difficile de savoir.
Donc, c'est pas aussi manichéen que pour Nigel Farage. Donc, il va falloir que je m'intéresse aux études. Il y a Remain United. Et là, on vote pour des gens, mais il faut être sûr que ce sont des gens qui veulent rester dans l'Union européenne.
Quelle drôle de campagne, quand même, hein, pour cette élection européenne. Quel drôle de moment. Vous avez, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne avec le Brexit et ils se retrouvent à voter pour des députés au Parlement européen.
Ah, c'est complètement dingue, oui. Mais le Brexit en soi, c'est complètement dingue. Donc, voilà. Quel rebondissement, quelle époque bizarre, j'ai jamais rien connu de tel, moi.
Vous retrouvera aux rencontres de la photographie d'Arles cet été ?
Ah, il en est question, je n'en suis pas encore sûr.
Surprise, merci beaucoup Martine Parr.
Merci.
Il faut maintenant qu'on fasse ce selfie ensemble. Avec mon appareil photo, c'est vous qui le prenez ?
Ok. Yeah, but I don't like it. I really don't like it. I'm pressing that button. Ah. Oh yeah, there you go. Ooh, look at that, adoring.